Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Après quelques heures de délibération seulement, le jury a conclu que la belle-mère de cette pauvre petite fille de Granby était coupable de meurtre au deuxième degré et de séquestration. Les avocats vont plaider sur sentence, mais on va essayer de comprendre un peu quels étaient les choix qui étaient offerts aux membres du jury et légalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Maître Denis Galland est avec nous. Bonjour Denis.
Bonjour Paul.
Alors, les options, c'était quoi exactement?
Les options, dans ce cas-là, il y avait une accusation de meurtre au deuxième degré, il y avait une accusation de séquestration. Les options également, le juge pouvait avait ouvert l'homicide involontaire coupable. Donc, et je te dirais que ça fait une grande différence. Donc, si, par exemple, le jury en serait revenu à la conclusion que madame était coupable plutôt d'homicide involontaire coupable plutôt que meurtre au deuxième degré, c'est que la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de minimum pour un homicide involontaire coupable, alors que pour un meurtre, que ce soit un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré, la peine maximale et la peine minimale est la même, soit la perpétuité.
Juste avant d'aller plus loin, explique-moi la différence entre un meurtre non prémédité et un homicide involontaire coupable.
Deux choses. C'est-à-dire qu'un meurtre en tant que tel, c'est la mort d'un être humain qui, on cause la mort soit intentionnellement, soit qu'on cause des lésions corporelles, des blessures de nature à causer la mort, et on est indifférent à savoir que la mort s'ensuive ou non. Tandis qu'un homicide involontaire coupable, je te donne l'exemple suivant, c'est-à-dire que j'ai pas l'intention de causer la mort, j'ai pas l'intention non plus de causer des blessures que je sais être de nature à causer la mort, mais compte tenu que je commets un acte illégal et il y a la mort d'un être humain, ben le droit criminel va me punir. Puis je te donne l'exemple classique, bagarre entre deux individus, je pousse une autre personne, elle tombe, elle se frappe la tête sur le trottoir, par exemple, et elle décède. J'ai jamais eu l'intention de causer la mort ou j'ai jamais eu l'intention de causer des blessures dont je sais de nature à causer la mort. Dans ce cas-là, regarde, j'ai poussé la personne, mais finalement, il y a eu la mort d'un être humain et j'ai posé un acte illégal. Puis ensuite de ça, ben là, il pourrait y avoir le simple accident, là, mais l'homicide involontaire coupable, okay. La différence qui fait basculer ça dans le droit criminel, c'est que j'ai posé un acte illégal. Dans ce cas-là, une voie de fait ou autre chose.
Bon, alors, si je reviens à ce verdict de meurtre non prémédité, c'est que le jury conclut quoi? Qu'elle a posé des gestes, que ce soit la séquestration, le fait qu'elle ait été enrubannée, cet enfant-là, qu'elle ait été bousculée, enfermée dans une chambre, que tout ça, finalement, a conduit à sa mort?
Tout à fait. Et voilà, première des choses, c'est-à-dire que tout ça, c'est, au-delà, c'est pas un homicide involontaire coupable, le jury en arrive à la conclusion, effectivement, qu'elle a posé des gestes dont elle savait pouvait être de nature à causer la mort. Puis, je veux dire, on reviendra pas dans tous les faits, mais je veux dire, enrubanner une personne de cette manière-là, la preuve du ministère public était assez concluante à cet effet-là. Donc, le juge n'a pas eu de doute à cet effet-là sur son intention de causer des blessures dont elle sait de nature à causer la mort. C'est pour ça que tu as eu un verdict, puis tu as eu un verdict aussi rapide aussi.
Bon, justement, la rapidité, est-ce que toi, ça t'a surpris, il y a quelques heures seulement?
Ben moi, je te dis que j'ai fait beaucoup de procès devant le jury dans ma vie, j'ai jamais eu ça, un verdict en cinq heures. Ça démontre deux choses, Paul. C'est-à-dire que, un, la preuve, elle était convaincante, les jurys n'avaient aucun doute, et deuxième des choses aussi, ce qui est utile de souligner, c'est que madame a témoigné, et ça veut dire, ça nous donne des indices, on saura jamais parce que c'est le secret du délibéré, mais ça veut dire carrément qu'ils l'ont pas cru, là.
Est-ce que ça se peut que les textos qui ont été présentés, qui traduisent son état d'esprit au moment justement où elle pose des gestes face à l'enfant, puis ça dénote à quel point elle haït cet enfant-là, même si elle a dit le contraire, que de lire ces notes-là, de prendre connaissance de son état d'âme, son état d'esprit, ça vient comme déjà comme régler l'affaire dans la tête des membres du jury.
Effectivement. C'est-à-dire que ça ajoute à la preuve circonstancielle. Donc, les jurys, quand ils reçoivent leurs instructions du juge, c'est qu'ils doivent prendre la preuve dans son ensemble. Donc, la preuve du ministère public, la preuve de la défense, puis effectivement, ça a démontré l'état d'esprit de la dame en tant que telle. Et ça a ajouté à la preuve du ministère public.
Là, tu disais donc que, automatiquement, c'est une peine à vie, perpétuité. Il faut quoi? Fixer le moment où elle pourra demander une libération conditionnelle?
Ben, tout à fait. C'est-à-dire que, compte tenu qu'elle a été trouvée coupable de meurtre, je veux dire, c'est la même peine, c'est juste qu'il change, c'est la période à laquelle elle va pouvoir demander une libération conditionnelle. Donc, ça avait été reconnu coupable de meurtre premier degré, je veux dire, elle pouvait pas faire ça avant 25 ans. Au niveau du meurtre au deuxième degré, c'est le juge, OK? Parce que un procès devant jury, la culpabilité et l'innocence, ça, c'est le rôle du jury, c'est le juge des faits, ils ont décidé. Donc, finalement, le jury, là, il est dissous. Puis là, c'est le juge Dionne qui devra fixer la peine, elle est mandatoire, mais devra fixer la période de laquelle elle va pouvoir demander. Et ça, le législateur prévoit que c'est entre 10 et 25 ans. Donc, le juge pourrait fixer 15, 20 et même plus, là. Et également, ça, ce que j'ai lu aussi, c'est que le jury ne l'a pas fait, mais ça, c'est une particularité dans le code criminel, c'est qu'après procès devant le jury, le juge demande au jury s'ils peuvent faire une recommandation quant à la période en tant que tel. Ce que j'ai compris, c'est que le jury a décidé que non, donc le juge Dionne a dissous le jury, et je pense que c'est vendredi prochain que les avocats vont plaider sur la période de entre 10 et 25 ans.
Merci, Denis.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Maître Denis Galland, ajoutons deux ou trois éléments. D'abord, on a pris connaissance d'éléments qui ont été cachés aux membres du jury, notamment que la belle-mère en question avait des antécédents, avait déjà frappé l'enfant, lancé l'enfant au sol, avait été arrêtée. Bref, il y a un historique de violence dans la relation entre la belle-mère et l'enfant. Et on le sait que c'est un enfant qui a été échappé par le système, puis c'est un enfant qui s'est retrouvé entre les mains d'adultes irresponsables. Beaucoup de gens me demandent, il arrive quoi avec le père? Le père va subir son procès, c'est prévu pour le mois de janvier, et on parle de d'autres chefs d'accusation, notamment de négligence, de ne pas avoir porté assistance, mais celle qui avait les accusations les plus sévères, c'est évidemment la belle-mère, donc qui a été reconnue coupable de meurtre au deuxième degré. Le drame de cet enfant de Granby, ça a été l'élément déclencheur de cette commission d'enquête, commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, qu'a présidé Régine Laurent. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Régine.
Bonjour.
J'aimerais t'entendre sur tes réactions, tes commentaires quand tu as pris connaissance du verdict qui est tombé hier après-midi.
Ça a été un torrent de larmes. J'avais des frissons, j'avais froid, j'avais chaud, je savais plus où me mettre. C'était comme puis jusqu'à ce matin, je suis pas encore capable de comprendre cette réaction-là, de mettre un mot dessus. Oui, soulagement, mais en même temps, j'arrêtais pas de penser à la petite, j'arrêtais pas d'avoir des flashs de ce que j'avais lu dans le dossier. Tu sais, à un moment donné, je disais, en tout cas, j'espère que tu vas nous pardonner de pas avoir su te protéger. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que c'est un soulagement.
T'as même commencé ton rapport avec une lettre que t'adresses à cette petite fille-là.
Oui.
Où tu parles des hommages qui lui ont été rendus, de l'amour que les gens... ça a tellement secoué le Québec. Mais en même temps, on se dit, cet enfant-là, on l'a échappé complètement, on l'a laissé seul.
Oui, et c'est ça devrait nous... on devrait garder ça en tête collectivement tout le temps pour être capable de changer les choses. Parce que souvent, je me disais, cette petite-là, comme tous les enfants, compte sur tous les adultes de son entourage pour la protéger, pour l'aider, pour en prendre soin. Elle a pas été capable de trouver ça à la maison. Il y avait l'école, il y avait la police qui était intervenue quelquefois dans cette maison-là. Et je me disais que partout où elle a regardé, partout où elle a posé les yeux, partout où elle a essayé peut-être de lancer des cris, ben il y a personne qui l'a pris pour vrai là, puis dit ok, je vais m'occuper de toi. Et ça, c'est quelque chose de terrible comme sentiment. Puis j'essaie de m'enlever ce qu'elle a pu vivre dans sa tête de petite fille, mais c'est vrai qu'on l'a échappé. On l'a échappé.
Ce qui est très frappant aussi, quand on a écouté les témoignages au procès, oui. Là, tu soulignes là, le fait qu'elle n'a pas trouvé d'adulte assez, je dirais, allumé, bienveillant pour lui tendre la main puis la protéger. C'est oui. de voir cet enfant-là qui fait des fugues, qui va, oui. qui se fait frapper, qui va porter, qui cherche du secours au dépanneur, qui, avant d'être retrouvé, enrubanné, va chez le voisin, se promène à l'extérieur. Puis à l'école, vole des lunchs parce qu'elle a faim. C'est un enfant qui envoie des signaux, ça, là.
Beaucoup, beaucoup de signaux de détresse. Puis quiconque a eu des enfants ou a des enfants dans son entourage, ce sont tous des comportements qui ne sont pas normaux. Ce sont tous des grosses lumières rouges, des cris, parce qu'un enfant, ça crie, ça envoie des signaux de détresse à sa façon. Et regardez, là, quand même, c'était toujours fascinant, malgré tout ce qu'elle vivait, cette petite-là, son intelligence. Tiens, il y a de la nourriture au dépanneur. Je vais aller en prendre parce que je suis plus capable, j'ai faim. Je vais voler des lunchs. C'est des façons de lancer des cris d'alarme, mais on les a pas entendus. Et c'est là où je me dis, bon, il faut qu'on garde ça, je disais tantôt, il faut qu'on garde ça en mémoire parce que il faut continuer et avancer pour changer les choses. Souvent, on dit, il faut pas qu'une mort soit vaine. Mais dans ce cas-là, il faut pas l'oublier jamais, cette petite-là, pour obliger nous à changer, nous collectivement, nous à se mêler de ce qui se passe pour les enfants de notre entourage, pour les enfants de notre quartier. Et il faut s'en mêler parce qu'on sait maintenant jusqu'où ça peut aller. On sait, puis on a appris qu'est-ce que ça veut dire quand on barouette un enfant d'une maison à l'autre, c'est quoi les problèmes que ça pose, puis pour longtemps, on souhaite qu'il s'en sorte, mais ça crée des problèmes majeurs pour le développement de l'enfant. Ça crée des problèmes affectifs qui sont importants. On le sait maintenant. Fait qu'il faut nous s'en mêler de ce qui se passe de tous les enfants au Québec. Et il faut être capable de demander des comptes aussi à nos décideurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour changer les choses? Il faut demander des comptes. On a le droit, on a le devoir de le faire.
Je pensais à la recommandation principale, ou en fait, je devrais dire l'espèce de principe de base du rapport qui est de dire... C'est pas une phrase creuse, là, de mettre l'enfant au cœur des décisions puis des priorités, là.
Oui.
Là, je me disais, si cet enfant-là, par le système puis par les adultes autour, avait été la priorité, là, mettons que ça aurait été bien différent.
Oui, oui, parce que, et pour une chose extrêmement importante, je vais donner un exemple pour expliquer. C'est que cet enfant-là était chez quelqu'un de la famille, en l'occurrence la grand-maman. Elle avait un bon développement, elle avait un comportement de tout petit enfant. Et au moment où on prendrait la décision de retourner chez papa ou chez belle-maman, ben on aurait dû regarder, OK, cet enfant-là va bien, elle a un bon développement, elle a une sécurité affective, bon... Est-ce que la retourner dans sa famille d'origine ou biologique, est-ce que c'est ça qui est dans son intérêt? Et c'est d'évaluer, est-ce que ça risque d'être un succès, ce retour, avec tous les services qu'on peut donner? Si c'est un succès, parfait. Mais s'il y a un risque important d'insuccès, pourquoi on ferait payer cet enfant-là de la déraciner du milieu où elle est bien, où elle est dans son bon développement? C'est ce que ça voudrait dire. Moi, c'est comme si les changements qu'on apporte à la loi de la protection de la jeunesse, on nous oblige à avoir une grille d'analyse où la seule personne qui est au centre de cette grille d'analyse, c'est l'enfant. Et ça, c'est majeur comme changement, mais comme changement qu'il faut accepter aussi dans la société. Oui, on va tout faire pour les parents, mais il faut accepter comme société qu'il y a des enfants qui ne retourneront pas chez leurs parents parce que c'est la meilleure chose pour eux.
Régine, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Paul. Bonne journée.
Bye. Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On va parler de recherche scientifique ce matin, puis d'abord, je vous le disais tantôt, c'est un sujet qui me passionne, mais c'est un sujet qui est important pour l'ensemble des Québécois parce que au cœur, vous avez la recherche, donc, et la capacité de trouver des traitements adaptés à des patients et donc de sauver des patients pour qui les traitements auraient été peut-être moins efficaces il y a 10 ans. Et pour établir donc des cadres de recherche, ben, ça prend des données, ça prend de l'information. Québec a déposé un projet de loi qui va donc permettre aux chercheurs, parce que là, il y a des barrières qui font que ça prend des années avant d'obtenir l'information nécessaire, capable d'avoir donc rapidement de l'info et établir des protocoles de recherche. Deux invités pour en parler. Daniel Sinette, qui est avec nous, qui est généticien moléculaire en oncologie pédiatrique, chercheur, travaille entre autres à Sainte-Justine. Monsieur Sinette, bonjour.
Bonjour.
Et également Laurent, qui est avec nous, qui a 17 ans, qui a été un patient qui était en phase terminale d'un cancer du foie, tout jeune, puis aujourd'hui, donc, qui va beaucoup mieux. Bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer avec toi. Tu as 17 ans aujourd'hui. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. À quel moment tu as eu ce diagnostic?
Ben, ça a pas mal commencé quand j'avais 9 ans. Dans le fond, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du foie qui était très, très, très important puis qui était une sorte de cancer qui se propageait relativement vite. Donc, j'ai dû rapidement avoir une greffe de foie suivie d'une honte et puis d'une rechute au poumon. Donc, dans le fond, une rechute, c'est quand le cancer, il passe du foie puis quand on l'a tout enlevé, ben, il en restait un petit peu dans le système qui circulait. Donc, il est allé vers les poumons cette fois-ci. Donc, après beaucoup, beaucoup de chimiothérapie, presque plus que 2 ans à l'hôpital, tu sais, ça allait vraiment pas bien. On peut s'entendre que, après autant de traitements de chimiothérapie, c'est quelque chose qui dommage beaucoup le corps. Donc, ça allait vraiment pas bien. Puis, après tout ça, quand je pense enfin que c'est fini, on retourne à l'école, puis tout. Quelques années plus tard, avec un scan de routine, j'ai le cancer qui revient, encore une fois dans mes poumons, mais cette fois-ci.
Et t'as quel âge à ce moment-là?
À ce moment-là, je pense que j'ai à peu près 12, 13 ans, j'ai en 6e année, même plus avant. Donc, ça revient dans mes poumons, puis on s'entend que du cancer, surtout à l'hôpital, c'est quelque chose qu'il faut traiter immédiatement, c'est quelque chose de critique. Donc, l'urgence était là, on voit que j'ai le cancer est revenu. Il faut qu'on trouve un traitement, mais après, comme je vous ai dit, tout autant de temps à l'hôpital, on peut pas retourner en chimiothérapie, mon corps est trop faible, ça va avoir beaucoup trop d'effets secondaires. Donc, c'est là que mon docteur Monia Marzouki propose un traitement qui est encore expérimental, une nouvelle recherche qui est la thérapie ciblée. Donc, ce que M. Sinette est en train de... Il faut vous expliquer tantôt.
Ouais.
C'est un traitement novateur. Puis dans le fond, c'est... on va analyser les gènes. Il va vous en parler plus. Mais c'est un traitement qui va cibler seulement le cancer au lieu de tout ce qui est autour. Donc, c'est quelque chose qui m'a permis de prendre une pilule par jour puis de pouvoir retourner à l'école, faire toutes mes affaires au lieu de possiblement avoir quelque chose qui pouvait... me clouer à l'hôpital pendant quelques années et même plus. Fait que, disons que ça m'a peut-être pas sauvé la vie en tant que tel, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a sauvé la qualité de vie. Ça
c'est clair.
Ouais.
Monsieur Sinette, on va expliquer le plus concrètement aux gens ce que vous avez fait comme travail avec un patient comme lui. Ça veut dire quoi, ça, une thérapie comme ça, très ciblée, qui s'attaque au cancer seulement? Mm-hmm.
Ben le défi des patients qui sont en fin de cheminement, c'est-à-dire qu'on a tout essayé puis il n'y a rien qui fonctionne, donc on doit chercher ailleurs. Donc, en termes de généticien, avec des outils qui existent aujourd'hui, donc du séquençage nouvelle génération, faire une histoire courte, on est capable de regarder vos 3 milliards de lettres de votre génome et de regarder une à une et de trouver des mutations, donc des fautes de frappe qui pourraient expliquer pourquoi vous avez développé le cancer. Donc, ça, on est capable de le faire. Maintenant, si on va à l'autre niveau, si on regarde ces mutations-là, ces fautes de frappe, donc lesquelles qui pourraient être ciblées par un médicament, une molécule qui existe. C'est ça, la thérapie ciblée. Et dans le cas de Laurent, on était chanceux. On a trouvé une faute de frappe qui pouvait être ciblée par un médicament qui existait, mais qui n'avait pas été utilisé pour cette condition-là. Laurent avait un cancer du foie. Et le médicament qu'on a trouvé, c'est un médicament qui est normalement utilisé pour traiter une tumeur cérébrale. Donc, non seulement on a une thérapie ciblée, mais c'est un repositionnement de médicaments. Médicaments qui existent, qu'on utilise pour un autre besoin.
Vous trouvez une nouvelle application.
Une nouvelle application, et ça, c'est totalement nouveau. Et en médecine de précision, ben c'est vraiment cet exemple-là. Chaque patient va avoir son propre traitement. Donc, c'est une bataille qu'on gagne patient par patient.
Et est-ce que cette découverte-là donc, nouvelle utilisation d'un médicament existant peut servir à d'autres traitements puis à d'autres patients ou c'est strictement pour le cas de Laurent?
Bien, c'est intéressant ce que vous dites parce que si on trouve la même altération, donc la même faute de frappe chez un autre patient qui a une autre condition, donc un autre type de cancer, on pourrait essayer. Parce que là, à ce moment-là, il faudrait voir si ça fonctionne. Maintenant, ce qui est intéressant dans le partage aussi d'informations, c'est que ce qu'on sait maintenant, c'est que n'importe quel autre patient, un Laurent numéro 2, qui a le même cancer, la même faute de frappe, la même mutation, on sait qu'une molécule qui existe, un médicament, et on connaît la recette. La recette qu'on a développée à Sainte-Justine, telle dose donnée à telle fréquence, on sait que ça fonctionne. Donc ça, c'est un partage de connaissances, mais qu'on peut faire à l'échelle internationale. Là.
Pour identifier des traitements pour des patients comme Laurent.
Exactement. Donc,
pour faire ces protocoles de recherche, puis ça vous prend des données.
Oui.
Faites-moi le lien entre le projet de loi déposé vendredi et les besoins comme chercheurs qui sont essentiels pour vous.
Oui. Bien, évidemment, faire un projet comme ça, c'est que le premier niveau, c'est d'avoir accès aux données cliniques du patient. Donc ça, c'est la première chose. D'être capable de les croiser avec des données de recherche. Dans ce cas-ci, c'est des données génomiques. Donc, là, on parlait des 3000 heures de lettres. Donc, de croiser ça. Et de les croiser aussi avec toutes les données qui existent dans le monde. Parce que pour trouver cette molécule-là, il faut aussi les croiser. Donc, c'est d'avoir, un accès. Et deux, d'être capable de croiser avec d'autres jeux de données. C'est ça qui crée de la valeur. OK? Et le fait d'avoir accès à des données de façon facile ou moins facile, mais là, c'est le temps par rapport au projet. Donc, si c'est difficile d'avoir accès, on rallonge le projet. Pour vous donner un exemple dans le cas concret ici, c'est qu'on part avec un projet de recherche subventionné avec de l'argent de recherche. Et lorsqu'on trouve quelque chose, il y a une discussion avec l'équipe clinique. Donc, en dans 24 heures, on passe d'un projet de recherche à une application clinique. Donc, c'est un gros effet d'accélération aussi d'avoir accès à ces données-là et la capacité de les croiser.
Donc, ce qui est important pour un chercheur comme vous, c'est d'obtenir accès à une banque de données, par exemple, prenons le Québec, là, ouais. Sur voici le portrait médical des Québécois, mm-hmm. Puis d'avoir cette information-là, ce qui n'est pas accessible actuellement pour vous, ou ça prend du temps?
Bien, ça prend du temps ou c'est plus difficile.
Okay.
Je vous donne un exemple, c'est qu'on peut partager l'information clinique à l'intérieur, par exemple, de Sainte-Justine. OK, si on travaille à Sainte-Justine, mais si on veut faire un programme de médecine de précision comme celui que Laurent bénéficiait à la grandeur du Québec, ben d'avoir l'information qui circule entre Québec, par exemple, et Montréal, et Sherbrooke et Montréal, ben c'est pas intuitif. Il y a du travail à faire parce que c'est plus difficile à le partager.
Et ça allonge le temps de la recherche puis donc de la découverte d'un traitement.
Ça allonge soit le protocole de recherche par rapport à un patient ou l'établissement du programme. Donc, dans le cas qui nous concerne, on a commencé ce programme-là à Sainte-Justine lorsqu'on a voulu l'établir au niveau québécois avec les trois autres centres d'oncologie pédiatrique. Mais là, ça a pris 2-3 ans parce qu'il a fallu répondre à toutes les questions qu'on devait répondre pour avoir accès aux données, le partage d'informations. Et ce qui est intéressant, par contre, dans un programme comme celui-là, le patient, lui, il n'a pas besoin de se déplacer. C'est la donnée qui se déplace. Donc, on est capable d'offrir un programme comme ça à tous les Québécois.
Et de dire à un patient qu'à Sherbrooke, par exemple, voici ce qu'on a découvert et comment vous pouvez vous en servir.
Exactement, et non seulement ça, là, on parle des grands centres, mais le même patient qui est à Gaspé, à Côte-Nord ou à Abitibi a accès au même bénéfice de la recherche qu'on fait, parce que la donnée, elle circule beaucoup plus facilement que l'individu.
Comment tu réagis quand tu... Là, tu le sais quand même depuis longtemps, là, mais que tu apprends que c'est un médicament qui était conçu pour un autre usage, puis avec la recherche, puis d'être capable d'identifier les fautes de frappe, comme vous dites, là... C'est ça qui a permis d'améliorer à tout le moins ta qualité de vie, sinon sauver ta vie, là.
Ben moi, ça me surprend à quel point il y a tellement de choses qu'on peut penser que ça fait quelque chose, mais après avoir observé tout plus attentivement, on voit que ça a tellement plus d'usage que ce qu'on y avait pensé au début. Tu sais, comme Dr. Sennett a dit, c'est une molécule qui normalement est utilisée pour des cancers, des tumeurs au niveau du cerveau, puis que ça marche pour une rechute au poumon. Tu sais, moi, ça me surprend. C'est fou à quel point je trouve que la recherche, on est passé loin depuis il y a quelques années où est-ce que c'était juste, on détruit tout sans penser en se disant, on va espérer de trouver le cancer, puis regarde, il sera plus là, puis on gérera les conséquences après, à quelque chose qui cible justement ce cancer-là, cette molécule-là, ces fautes de frappe-là, comme il dit. Je trouve qu'on est allé... On est parti de rien, puis on a évolué tellement en si peu de temps, puis je pense qu'il faut continuer comme ça pour il faut que ça continue dans cette direction-là si on veut espérer de sauver le plus de monde. Puis ça, ça passe par le partage de données, par... je pense que je peux parler au nom de presque tout le monde qui sont à l'hôpital puis qui ont besoin d'un traitement le plus vite possible. Je pense que de se faire donner sa condition, je pense que n'importe qui serait prêt à échanger un numéro. Mais c'est même pas son nom, sa date de fête, c'est juste ce que tu as eu, ce que tu as vécu à l'hôpital pour avoir un traitement dans les jours qui viennent pour possiblement sauver.
On protège l'identité des gens, c'est l'information qui nous intéresse, c'est pas leur nom, c'est pas leur adresse.
Non, on n'a même pas le nom, l'adresse, la date de fête, on a juste le mois, l'année, on n'a même pas le jour. T'sais, c'est des données qui sont dénominalisées, donc c'est juste un numéro, comme Dr. Sinette me l'avait expliqué avant. Il me connaissait sous un chiffre avant. Il connaissait même pas mon nom quand il travaillait sur mon dossier. Mais de savoir que, tu sais, juste le fait d'avoir cette donnée-là, ça m'a permis d'avoir un traitement aussi rapidement que ça, au lieu de... Tu sais, si ça aurait pris trop de temps, on serait juste allé avec la chimiothérapie, vu que, regarde, il faut agir tout de suite quand c'est un cancer.
Aujourd'hui, donc, comment tu vas?
Ah, je vais super bien. J'adore ma vie, ça va super bien.
Et tu t'impliques avec la Fondation Sainte-Justine.
Oui,
aussi.
Je suis d'ailleurs... Je suis porte-parole pour la Fondation Sainte-Justine, pour le Grand Sapin qui est en ce moment-là. Donc oui, je m'implique, j'essaie toujours de redonner un petit peu de comme je peux à tout le monde qui m'a aidé à l'hôpital. Il y a tellement de monde qui ont travaillé sur mon dossier, fait que de pouvoir redonner le plus que je peux, je pense que c'est vraiment important pour moi.
On est content de savoir que tu vas bien. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Sinette. Merci. C'était impressionnant de vous entendre, mais c'était d'une clarté pour les auditeurs. Puis c'est une voie de l'avenir aussi, quand on est face à des problèmes, puis de trouver... l'arme de précision pour attaquer le cancer, il n'y a rien de mieux.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Notre invité ce matin, ben, vous l'entendez, Sylvain Cossette, qui amorce dès le 30 décembre une grosse tournée partout au Québec. Sylvain, bonjour.
Salut.
Je pense que les Québécois en ont besoin sincèrement là, de ventiler, puis d'entendre ce qu'ils ont le goût d'entendre. Puis je regardais, là, on connaît évidemment ta recette, là, puis c'est clair, les années 70-80, tes succès, les Beatles... Je veux dire, là, tu t'offres au monde ce que le monde a le goût d'entendre.
Écoute, ma meilleure décision en vie a été quand je me suis tourné vers le divertissement. Il y a plusieurs années, j'étais allé souvent à Vegas, à New York, et j'ai vu des Québécois qui se déplaçaient ailleurs pour aller voir des shows de divertissement. Des shows où t'en donnes un peu plus, là, où il y a un gros show d'éclairage, plusieurs musiciens sur la scène, tu sais, des effets spéciaux, une mise en scène. Puis moi, j'ai décidé d'aller là-dessus, puis honnêtement... Il y a un gros pourcentage de Québécois qui ont le goût de se divertir, oublier leurs problèmes pendant 2 heures de temps, puis c'est mon but que je me
donne. Mais ça arrive à point, là, parce que les 2 dernières années n'ont pas été faciles, de confinement, déconfinement, puis on reconfine, puis couvre-feu, puis tu l'as vécu comme tous les Québécois. Arrive ce moment où là, tu dis, OK, là, on a besoin de sortir, puis on a besoin pendant 2 heures. C'était vrai avant, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui.
Ouais, c'est drôle, parce que j'ai écouté, mais ben, gros, tu sais, moi, c'est... Depuis le début de ma carrière, mon cercle d'amis s'est en allé vers un peu plus vers des artistes, vers le milieu. Puis depuis 2 ans, ben moi je suis retourné à Mauricie, j'étais avec mes chums, je joue au golf, je joue au hockey, je fais. Puis là, je parle aux gens qui venaient me voir avant, mais que j'avais pas le temps de jaser plus que 5 minutes après aux autographes et tout. Puis je les ai écoutés, puis la majorité des gens me disaient, hey, on aimerait tellement se revoir ton show 70s, on n'a pas vu 80s, on aimerait ça le voir. Hey, toi, quand tu faisais des Beatles et tout ça, donc, puis c'est drôle parce que j'ai fait 2 shows cet été à l'amphithéâtre Cogeco, 3 Rivières. Mm-hmm. 2 shows où on m'avait dit à dernière minute, peux-tu monter 2 spectacles, ben, 6 semaines d'avis. j'ai décidé, je dis, ben, je vais faire les chansons que je connais déjà, 70s, 80s. Puis, écoute, c'était un super gros succès. Puis, à un moment donné, dans ce show-là, j'ai fait une couple de mes chansons, tout seul à la guitare. Puis, je me suis aperçu que les gens chantaient mes paroles. Moi qui écoute pas, tu sais, c'est drôle parce que tantôt, t'as fait jouer More Than a Feeling. Moi, j'écoute jamais mes albums. Donc, tu sais, j'oublie un peu ce que j'ai fait. Puis là, j'ai commencé à chanter mes chansons, puis les gens chantaient. Puis tout ça m'a dit, ben écoute, les gens sont super contents d'entendre ça, ils ont le goût d'être là, puis je vais leur donner ce qu'ils ont le goût d'entendre.
C'est quoi ton sentiment quand tu sens ça, cette réaction du public, pas juste aux grands classiques là, des années 70, mais à tes propres chansons, de voir que, hey, ça fait un bout de temps, puis ils les connaissent par cœur?
Ben écoute, ça me touche beaucoup. Moi, j'ai tendance à oublier, comme je te dis, puis tout à coup, sentir que les gens sont super contents que je fasse mes chansons ou que je fasse des grands classiques, tu sais, ça me fait juste voir que je prends les bonnes décisions. T'sais, moi, j'ai pris ces décisions-là, super importantes dans ma vie, des chansons que j'aime. Tu sais, j'aime ça chanter. Moi, j'aime ça chanter tout court. J'allais chanter une nationale dans le temps canadien. Je trippais, puis je chantais des pubs. Tu sais, j'adore ça chanter. Mais moi, la première fois que j'ai chanté, c'est devant du monde, devant 1000 étudiants à l'école. Donc, le partage, là, le partage entre les gens puis moi, il est important. Moi, je chante pas chez nous. Je chante pas
sous la douche.
Je chante pas sous la douche. Puis, mais le partage, il était important pour moi. C'est ça qui me donne du gaz d'être devant les gens, voir leurs réactions. C'est sûr que l'on va être, on va avoir des réactions avec des masques, mais c'est pas grave. C'est mieux que rien. Là.
Pourquoi tu dis que ça a été une décision difficile, puis que t'as prise il y a quand même un certain nombre d'années là, de dire ben je m'en vais dans une forme de divertissement?
Ben moi j'ai senti, c'est drôle parce qu'en 2003 j'ai eu mon Félix d'interprète de l'année, tu sais, puis après j'ai vraiment senti que c'était comme un diplôme. Ok, tu peux t'en retourner chez vous. J'ai eu l'impression que l'industrie était pour changer énormément. Puis c'est drôle parce que moi je vis pas dans un monde de licornes, j'essaie toujours de regarder ce qui se passe pour le vrai, et là l'industrie a changé énormément. Tu sais, les disques ont arrêté de se vendre pour des chanteurs qualifié de à voix, là, comme on les appelle, ben je me suis dit, ouais, peut-être que notre temps est un peu passé. Puis effectivement, il y a eu beaucoup de relèves. La musique a changé énormément. Aujourd'hui, moi, je me sens plus à ce que je fais au niveau de mon écriture. Ressemble pas à ce qui se passe présentement dans la musique, tu sais. Puis on m'a déjà dit que j'étais trop vieux pour jouer à la radio. Les disques se vendent plus. Bon, pour moi, tu sais, je suis pas amer du tout de ça. Je me suis dit, ben, je vais aller faire des shows. Je vais faire des shows pour les gens qui ont encore le goût d'entendre un chanteur.
Ça veut dire quoi, ça, trop vieux pour jouer à la radio?
Non, on m'a dit ça une fois. Moi, j'ai sorti mon album après les 70, j'ai sorti le jour d'après.
Oui, je me souviens.
Puis à un moment donné, on avait une super de chanson. Le Monde est fou, là, a fait un remix et tout. Puis on a voulu la faire jouer à la radio. Puis on s'est fait dire, ben Sylvain, il fait des bonnes tunes, mais.
Il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre.
Il était trop vieux maintenant pour la radio, tu sais. Puis ben, moi, après un petit 24 heures, je me suis dit, waouh. OK, là, c'est vraiment une question d'âgisme. Puis pourtant, U2 joue, puis lui, il est plus vieux que moi. Bon, non, c'est toute une affaire. Mais j'ai pris 24 heures pour être un peu sur le dos. Là. Puis après ça, j'ai dit, bon, ben, on se relève, puis qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, j'ai pas d'amertume. Puis je trouve maintenant la musique, la radio appartient aux jeunes, c'est bien correct. Je pense que moi, j'ai eu mon temps, ils ont leur temps présentement, puis moi, je fais mes shows à grand déploiement.
Puis t'es pas trop vieux pour monter sur une scène.
Non, ben écoute, c'est drôle parce que j'ai 58 ans. Ma voix a pas changé depuis que j'ai 18 ans. J'ai le même registre, puis j'en reviens jamais. Là, quand j'arrive pour m'attaquer à des grosses chansons de Queen, ma voix est encore là, puis je trouverais ça plate de m'arrêter là quand je suis encore capable de chanter. C'est comme si j'avais fait du sprint toute ma vie, puis le record du monde est à 9 secondes, puis moi, je courais encore à 10. Je le comprends toujours pas, mais je l'apprécie vraiment, puis... Tu sais, de voir, je pense que les gens s'attendent à ça aussi, s'attendent que j'ai toujours vu mon travail de chanteur comme un travail d'athlète. Donc, je fais attention, je fais pas d'abus, j'ai toujours gardé ma voix en forme, puis je suis aussi en forme, donc tout va bien.
Un autre exemple de ça.
Get back to where you once belong. Get back.
As-tu vu le documentaire en passant?
Je capote. Puis là, je ne l'ai pas vu au complet parce que j'ai fait pas mal d'affaires ces temps-ci. On était en répétition. J'essaie de le regarder à peu près une demi-heure à la fois parce que c'est beaucoup. Tu sais, moi, je suis un grand fan des Beatles. J'ai toujours dit que je n'ai pas commencé à écouter de la musique, j'ai commencé à écouter du Beatles. C'est vraiment ça qui m'a accroché dans la vie. C'est sûr que toute l'histoire de Lennon McCartney, Yoko et tout ça, là, je trouve ça tellement le fun de voir la relation de McCartney puis Lennon. Tu sais, ils s'aiment, les gars. Tu sais, ils se regardent dans les yeux, ils ont une tendresse un peu l'un pour l'autre. Ils ont créé quelque chose d'incroyable. Ils ont changé la face de la musique complètement, tu sais. Puis je trouve ça triste de voir l'autre côté aussi, de voir Harrison de laisser un peu de côté, de voir Ringo qui est triste de voir sa gang et dire ça se peut pas, tu sais. Pourtant, on est tellement bon, on a changé le monde, tu sais. Puis non, mais je capote.
Comment un auteur-compositeur comme toi interprète, regarde un documentaire comme ça où tu vois des musiciens comme élaborer la toune, la construire? Puis là, toi, t'entends ça, puis tu sais que ça va devenir un succès planétaire. Oui. Il y a quelque chose de...
C'est drôle parce que je suis assis sur mon fauteuil, puis quand il essaie quelque chose qui marche pas, j'ai le goût de dire « Non, non, les gars, ça marchera pas. C'est pas ça qu'il faut. Non, non, les backs vocales, ça sert à rien de le faire dans Let Me Down, il n'y en aura pas. » Non, mais c'est vraiment drôle, leur façon de travailler aussi. Tu y arrives vraiment avec un petit sketch, puis ils sont un peu turbulents. Tu sais, McCartney, il parle, puis il joue toujours de la basse en même temps, puis l'autre, il joue du drum, puis les gars, ils continuent à jaser, mais tout en bon français, en gossant sur leur instrument. C'est particulier, puis de voir comment ça change, comment McCartney arrive avec l'idée de Get Back. Tout d'un coup, les deux gars le regardent et disent « Mais non, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça ne marchera jamais, cette chanson-là. » Puis de toute façon, au bout, c'est un succès. Let It Be. Moi, j'en reviens pas comment McCartney était rempli de mélodies. En pas grand temps, il sortait les meilleures chansons des Beatles. Donc, c'est incroyable. Puis tu sais, Harrison, qui était le troisième, qui avait une chanson de temps en temps, était tout un mélodiste aussi, tout un compositeur, tout un chanteur aussi. Donc, c'est impressionnant.
Je ne sais pas, as-tu déjà pensé à exporter le spectacle? C'est-à-dire que tu as une voix exceptionnelle, tu as un talent, tu as ce répertoire-là, puis de dire, ça peut sortir du Québec, ça?
Moi, j'étais dans un groupe qui s'appelait Paradox dans les années 80, donc j'ai su c'est quoi travailler à l'extérieur, recommencer à zéro, surtout dans Rest of Canada. Ça, c'est pas évident. Pendant l'aventure 70s, on a eu peut-être l'occasion d'aller peut-être à Atlantic City ou d'aller à Vegas.
Ouais.
Mais là, on me demandait de changer pas mal d'affaires, d'avoir des danseuses avec des plumes et tout, puis moi, ma plus grande richesse que j'ai, c'est ma liberté. Moi, j'ai aucun contrat avec personne. Je suis mon propre producteur, avec mon agent, on a une poignée de main avec, tu sais, je suis attaché nulle part. Donc, je peux faire ce que je veux dans la vie. Ici, au Québec, ça marche très, 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 très bien. Je sens pas le besoin d'aller à l'extérieur puis repartir à zéro puis devoir faire des gros. Moi, je suis pas un gars de compromis. Je pense qu'un taureau peut comprendre ça dans la vie. Et, donc, je suis ma plus grande richesse. Donc, non, j'ai pas le goût d'aller à l'extérieur. Puis, mais honnêtement, je suis tellement bien ici.
Mais là, je regardais les... Vous êtes rendu à combien de billets vendus, là?
Ben, écoute, on doit être pas loin de 25 000. Je sais que là, il y a des spectacles qui s'ajoutent. Quand on a annoncé le 20 000, on avait peut-être une quarantaine de spectacles. On est rendu au-dessus de 50. C'est une tournée qui va continuer aussi longtemps qu'on va me demander de faire des supplémentaires. À tous les jours, on annonce des supplémentaires. J'en reviens juste pas. Je pense qu'à l'Étoile 10-30, on est là 5 fois. C'est honnêtement, je suis chez nous. Tu sais, je me posais des questions, hein, pendant le confinement. Puis...
Étais-tu inquiet de dire, est-ce que les gens, parce que tu sais, c'est quand même pour l'industrie, c'est une pause longue, de dire, est-ce que les gens ont le goût de ça, vont-tu revenir, ça va-tu marcher, les salles vont-tu vouloir nous prendre? Puis...
Ben, je me suis posé un million de questions. De un, est-ce que ça va me tenter encore?
Aussi, à la base.
De deux, est-ce que les gens vont avoir le goût? Parce que quand t'enlèves pas une routine, mais des habitudes aux gens, ils trouvent d'autres choses, ils vont faire autre chose. Puis je me dis, est-ce que les gens vont avoir le goût encore d'aller dans les salles? Est-ce qu'ils vont avoir le goût de s'asseoir à côté de quelqu'un qui peut-être a la COVID, puis on n'est pas trop sûr, puis quand la personne va tousser à côté, comment je vais me sentir collé? Il y avait un million de questions comme ça, mais là, les gens ont l'air d'être... je suis allé voir Dominique Paquette la semaine passée, puis les gens étaient là avec les masques, puis ça, ils appréciaient le spectacle. D'ailleurs, un très bon show. Et puis, oui, c'est sûr que ça m'a inquiété. Je me suis posé un million de questions. Mais comme je disais tantôt, j'ai senti que les gens avaient besoin d'aller se divertir.
Ça va faire tellement de bien aux gens, là.
Ah, ben ça me fait du bien à moi aussi. Puis c'est drôle parce que quand j'ai fait un zoom avec mes musiciens, je leur ai annoncé que la tournée repartait. Puis j'ai vu les petits yeux brillants. Puis t'es vraiment content. Puis je me demandais si j'étais capable de retrouver mes musiciens. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont choisi d'autres métiers. Ils n'ont pas eu le choix de se revirer vers autre chose. Mais honnêtement, nous autres, là, puis moi, je déteste pratiquer. Moi, j'aime ça chanter pour le vrai. À go, on part devant les gens. Puis là, j'adore ça répéter avec mes musiciens. Donc, c'est vraiment le fun.
Comment va ton griffon?
J'ai plus de griffon.
Tu l'as plus?
Il est plus là, le griffon. Il est parti dans une autre famille.
Oh.
Il était pas heureux dans notre nouvelle nouveau chez soi. Ben, tu sais, un chien de chasse, hein? Tu t'en vas dans la campagne, c'est un peu plus difficile. On avait
ça en commun, un moment donné.
Ben,
on avait
chacun notre griffon.
Ouais. Sylvain, faut que les gens aient voir ça. Puis les dates s'ajoutent, puis ça va être dans votre coin à un moment donné, ça, ou en tout cas pas trop loin. Les années 70-80, ses succès, puis les Beatles. Merci beaucoup d'être venu.
Merci, Paul.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
On le sent déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, cette pression, la hausse sur les prix quand on fait, par exemple, les courses, quand on va au supermarché, quand on va dans des marchés publics. Les denrées de base coûtent plus cher. Et ce matin, Sylvain Charlebois était avec nous, vous le savez, il est directeur principal du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. C'est le rapport annuel sur les prix alimentaires prévus pour 2022. Et disons que ça regarde pour une hausse qui va continuer. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, votre projection là laisse entendre des hausses de prix, pas sur tous les items du panier, bien sûr, mais de façon globale, là, c'est autour de 5 à 7 %.
C'est ça, exactement. Donc, pour une famille de 4, là, en moyenne, on parle d'une facture supplémentaire de 966 $ pour l'année qui s'en vient. Puis c'est vraiment dû à... Bon, il y a la restauration, là. On peut toujours éviter la restauration, mais on s'attend à des hausses là, en restauration de jusqu'à 8 %. Les produits laitiers, on s'attend à une hausse là, de 8 %, ce qui est quand même pas mal. Fruits, légumes, 7 % et la boulangerie à 7 %. Donc, tout ça fait en sorte que ça va coûter à peu près 7 % de plus pour l'année prochaine.
OK. Comment vous établissez que les produits laitiers, par exemple, vont augmenter de quelque part entre 6 et 8 %?
Bien, d'abord, il y a quelques semaines, la Commission canadienne du lait annonçait qu'elle recommandait une hausse de 2,4 % pour ce qui est du prix du lait versé aux producteurs laitiers partout au pays. Ça veut donc dire que les compagnies comme Saputo, Lactalis, Agropeu doivent payer plus cher pour leurs intrants. Lactalis annonçait récemment, en fait, que la compagnie augmentait ses prix de 15 % demandés auprès des épiciers. Alors, c'est certain qu'au détail, là, éventuellement, ça va nous rattraper. Là.
Autre exemple, la viande. Là, vous prévoyez une hausse, mais pas mal plus modérée.
Ouais, c'est rare qu'on voit deux années consécutives où la viande vraiment explose. Là. Cette année, ça n'a pas été drôle là, au comptoir des viandes. Là. Bon, le poulet, quand on regarde la tierce des viandes, le poulet 13 %, le bœuf 17 %, le porc, c'était moins pire là, à 5 %. Mais c'est rare, là, on s'attend pas à des hausses spectaculaires pour 2022. Alors, si vous êtes un fan de beefsteak, un fan de viande, là, ben 2022 devrait être votre année. Là. au moins, il y a ça comme bonne nouvelle.
OK, mais quand on prend ça sur un plan plus global, là, dans une perspective plus large, le coût du logement augmente. On a vu le coût de l'essence augmenter, par exemple. Là, vous nous dites, pour remplir le même panier d'épicerie, ça va vous coûter à peu près 1 000 $ de plus. Les revenus ne sont pas élastiques à ce point-là. Ça veut dire que les gens vont devoir faire des choix, là.
Oui, non, absolument. C'est là qu'est le problème. Bon, l'inflation alimentaire n'est pas un problème en soi. Je pense que l'industrie a besoin de ressources pour nous offrir des produits de bonne qualité. Des produits salubres. Les consommateurs s'attendent à de la variété aussi. Mais le problème, c'est quand on a un taux d'inflation de 7 %, les salaires suivent jamais, là. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'abordabilité alimentaire. Les Nations unies mesurent l'abordabilité des aliments partout dans le monde. Le Canada était au 18e rang en 2020. En 2021, on a baissé au 24e rang. Et moi, j'ai l'impression qu'on va continuer à notre dégringolade comme pays là, l'année prochaine, en 2022, en raison de ce qui se passe actuellement avec les salaires.
L'autre point, le prix, c'est une chose. La disponibilité des produits, ça en est une autre. Qu'est-ce que vous prévoyez là-dessus? Est-ce qu'il y aura... On va retrouver donc des tablettes un peu plus pleines. C'est pas mauvais actuellement, mais des produits parfois. L'autre jour, je suis allé, il n'y avait pas de céleri. Bon, avez-vous l'impression que l'approvisionnement va être, disons, correct?
Ça sera pas parfait. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au Québec et en Ontario, il y a moins de problèmes qu'ailleurs.
Okay.
En Atlantique, et là, avec les inondations, comme vous venez, c'est incroyable. Là, 40% des gens se sont aperçus qu'il y a des trous sur les tablettes. Là. Mais les gens paniquent pas, et c'est tant mieux. Il y a deux choses qui arrivent. D'abord, les chaînes d'approvisionnement tournent au ralenti. Deuxième chose, il y a beaucoup d'épiciers qui, disons, révisent leur portfolio de marques. Donc, ils vont peut-être commencer à nous offrir moins de produits. Avoir 18, 20 000 produits différents, là, ça vient qu'à coûter cher. Donc, on va tenter de gérer les coûts différemment. Ça veut dire qu'il va y avoir moins de produits. Et une fois de temps en temps, on risque de voir des tablettes vides ici et là. C'est pas parce qu'il manque de nourriture, c'est juste parce qu'on recalibre le portfolio des marques.
Merci d'avoir pris le temps. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Au revoir. Bye-bye. Sylvain Charlebois, donc, qui est le responsable de cette étude, le rapport annuel sur les prix alimentaires 2022. C'est fait par le laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.